de notre manuel. Souviens-toi d'où tu es tombé, comprends tes échecs. Restez debout, nous allons prier. Nous allons prier. Père Saint et Juste, c'est toi qui as voulu ce programme et tu nous y convies. Nous sommes venus parce que tu es celui qui nous appelle à oser recommencer. Comment oser recommencer sans comprendre là où nous sommes tombés? Seigneur, ce soir, tu vas nous révéler des choses. Même si nous nous sentons bouleversés, donne-nous de saisir ta main. C'est par amour que tu nous parleras ce soir. Bénis cette rencontre. Bénis ces instants dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir. Nous abordons là maintenant le premier chapitre du module « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Et ce soir, nous parlerons de comprendre tes échecs. Comprendre tes échecs. Comprendre tes échecs. De quoi est-il question? Est-ce une tragédie d'échouer? Est-ce anormal d'échouer? Et lorsqu'on a échoué, comment s'en sortir? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nos échecs? Celui qui tombe et refuse de se lever, reste sur place ou fait le sur place. Mais celui qui tombe et accepte de se relever, continue la course vers sa destinée. Ce n'est donc pas une tragédie. Ce n'est donc pas une tragédie de connaître un échec. Mais c'est fatal de rester dans l'échec. C'est fatal de rester focalisé sur ses échecs. Tout ne s'arrête pas lorsqu'un échec surgit dans ta vie. Tout ne commence pas par l'échec. Et tout ne devrait pas s'arrêter lorsqu'un échec surgit. Derrière chaque échec se cache un message. Mieux une opportunité pour toi et moi de faire mieux ou d'aller plus loin. Comprendre tes échecs ou comprendre nos échecs nous interpelle d'abord à les identifier, à trouver les causes de nos échecs et également de comment sortir de nos échecs pour aller plus loin. Quelles sont là les articulations de notre échange ce soir? Comme je le disais, échouer, cela ne semble pas normal, mais dans l'échec, il y a quelque chose de bien. Et ce quelque chose de bien ne devient bien que lorsqu'on l'a compris. Identifier tes échecs. La Bible nous présente les premiers hommes qui ont échoué à Ève. Ils ont échoué parce que leur destinée c'était le royaume des cieux, ce n'était pas la terre. C'était de vivre pleinement dans la présence de Dieu. Mais ce que Dieu attendait d'eux, c'était qu'ils se relèvent de leurs échecs. Au lieu de se relever de leurs échecs, ils ont commencé à accuser Dieu et à se plaindre. Ce sont les attitudes que nous avons souvent quand nous échouons, non? La Bible nous présente Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, comme celui en qui il n'y a pas de variation. Ainsi, tes échecs sont incapables de changer Dieu, ou de changer la nature de Dieu, ou de changer l'amour de Dieu pour toi. Ce n'est pas parce que tu as échoué que l'amour de Dieu pour toi change. Non. Ton échec est incapable de changer la nature de Dieu pour toi. Si tu as échoué, c'est assurément parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pris en compte. Parce que la volonté de Dieu à ton sujet, ce n'est pas que tu partes d'échec en échec. Ce n'est pas de te voir te lamenter ou de t'apitoyer sur ton échec. Mais il faut être capable d'identifier les causes de ta chute pour mieux te refaire. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais pour identifier les causes de ta chute, il y a des préalables. Tu ne peux pas identifier les causes de ta chute s'il y a une nature en toi qui n'est pas détruite, ou s'il n'y a pas des choses que tu fais préalablement. Les choses préalables pour identifier ton échec, c'est que tu sois humble. Si tu n'es pas humble, tu es incapable d'identifier ton échec, de te rendre même compte que tu as échoué. Le préalable, c'est que tu sois humble. Être humble ici suppose que tu sois vrai avec toi-même. Vrai avec toi-même, que tu sois capable de dire, Édouard, tu as échoué. Ici, tu as échoué. Tu as été incapable. Tu as été incompétent. Tu n'as pas obtenu le résultat qui est compté. Que tu sois humble pour le reconnaître. Si tu n'es pas humble pour le reconnaître, il te sera difficile d'identifier la nature même de ton échec. Deuxième préalable, c'est que c'est l'amour de Dieu et l'amour pour toi-même. Si tu ne crois pas à l'amour de Dieu pour toi, si tu n'as pas conscience que malgré ton échec, Dieu t'aime, et si tu cesses de t'aimer à cause de ton échec, il te sera difficile d'identifier les causes de ton échec. Il faut savoir que l'amour de Dieu pour toi reste intact en dépit de tes échecs. Aime-toi malgré tes échecs. Continue à t'aimer toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas, il te sera difficile. Dernier préalable, la vérité et la reconnaissance. Dis-toi la vérité. Reconnais la vérité. Et être capable de reconnaître également tes faiblesses et tes limites. Si tu ne reconnais pas tes faiblesses et tes limites, tu ne peux pas identifier tes échecs. C'est préalable. T'amène à prendre en considération tes échecs et t'empêche de t'apitoyer sur ton sort et te conduit à te souvenir de là où tu es tombé. Apocalypse chapitre 2 verset 5 nous dit: souviens-toi d'où tu es tombé. Aie du courage, répands-toi. Ce souvenir, il ne s'agit pas d'un travail intellectuel de rappeler à moi qu'un jour j'ai. Quand la Bible dit souviens-toi d'où tu es tombé, prends conscience de ce qui t'a fait tomber. Ne reste pas là où tu es tombé. Prends de nouvelles dispositions intérieures. C'est pourquoi, dans tes échecs,
Il ne faut pas voir la responsabilité d'abord des autres, mais il faut toujours voir ta propre responsabilité. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ton échec t'engage en premier, ça n'engagera jamais ton voisin. Quand Adam et Ève ont péché, l'échec de qui a engagé l'autre? Personne. Ils étaient responsables de leur échec. Ce qui a gêné Dieu, c'est qu'ils refusaient d'être responsables de leurs échecs. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il ne s'agit pas de rester focalisé sur ton échec. Il y a des gens, lorsqu'ils échouent, ils passent toute la journée à dire, j'ai échoué. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce que j'ai fait aux gens. Ne reste pas focalisé. Plus tu restes focalisé sur ton échec, tu oublies que Dieu t'aime. Deuxièmement, tu oublies que ta destinée c'est devant. Ce n'est pas là où tu as échoué. Ne sois pas focalisé sur ton échec. Il y a des personnes, toute leur attention, toute leur vie, toutes leurs émotions sont focalisées sur là où elles ont échoué. Et elles ne peuvent pas avancer. Mais qu'est-ce qui cause l'échec? Nous allons évoquer ici quelques éléments qui sont à la base de nos échecs. Tu échoues parce que tu marches avec des personnes qui ont la mentalité d'échec. Tu échoues parce que ta compagnie est une mauvaise compagnie. Imagine un temps soit peu que tu es dans une salle de classe et ton meilleur ami dans la salle de classe, c'est le dernier. Quelle sera ta position? En dernier. Si ton ami est quelqu'un qui aime l'échec, si ton ami est quelqu'un dont sa position ne l'inquiète pas, il se plaît dans la position de dernier, assurément, quand il va dribbler les coups, il va les faire avec toi. Et comme il sera dernier, tu seras celui qui vient avant le dernier. La Bible nous dit à ce sujet, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être l'ami d'une prostituée ou d'une femme ou d'un homme qui passe le temps à faire la calomnie, le commérage, et tu veux réussir dans la sanctification. Un adage populaire dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si la Bible dit déjà que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il faut bien identifier avec qui tu marches. Qui est ton ami? J'ai été embêté un jour avec un jeune, il me disait qu'il a beaucoup d'amis. Qu'il a beaucoup d'amis, ils étaient environ 12. Tout ça, ses amis. Comment tu fais pour avoir 12 amis? Identifie qui est ton ami. Il s'agit ici d'une cause qui est extérieure. Mais cette cause extérieure dépend de l'influence que toute personne a. Sachez-le, deux personnes ne marchent pas ensemble sans être tombées d'accord du but de la marche. Que vous soyez déjà deux, une personne va avoir l'influence sur l'autre. Forte raison, si toi tu... Ça fait 12 influences. Influence. Les mauvaises compagnies entraînent l'échec. Veille donc sur le choix de ceux avec qui tu marches. Prenons deux exemples, trois exemples. L'ami de David, c'était qui? Jonathan. L'ami de David, c'était Jonathan. Jonathan aimait le Seigneur. David, lui, l'aimait le Seigneur. L'ami de Ananias, c'était qui? Vous ne connaissez pas, c'était Saphira. Quel est le sort qui a été réservé à Ananias et Saphira? Choisis bien tes amis. Le fils prodigue dans Luc chapitre 15 avait pour meilleur ami qui? Les prostituées. Je prends ces trois exemples pour t'aider à choisir tes amis. Deuxième cause, les mauvais conseillers. Proverbe 15, 22 nous dit que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère et des mauvais conseillers. Quand il y a de nombreux conseillers, on réussit. Mais quand il y a pas de conseillers, alors on échoue. Alors, il peut avoir de conseillers. C'est bon. Mais il faut discerner ou le discernement lorsque tu reçois un conseil. Lorsque tu reçois un conseil, mon ami, il faut discerner. Même quand quelqu'un te donnera un conseil, il te dira, c'est de la part de l'Éternel que je te parle. Il faut aller devant Dieu pour chercher à savoir si ça vient de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 13, il y avait un jeune prophète. Un jeune prophète en Juda qui était performant. Son prophétisme était percutant. Quand il parlait, les choses s'accomplissaient. Et lorsque le monsieur se lève maintenant, il avait reçu un ordre de la part de l'Éternel. L'Éternel lui dit, va à Juda, tu ne retourneras pas par ce chemin. Ne retourne pas par ce chemin. Ne mange pas de pain. Il a écouté la voix de l'Éternel. Il a prophétisé dans Juda. Et les vies ont commencé à être transformées. Mais dans la même ville de Juda, les enfants d'un attendent qu'il y a un prophète ici, dans Juda, et donnent la nouvelle à leur père. Et leur père apprend la nouvelle. Il dit, où est passé le prophète? On dit, il a emprunté ce chemin. Il attelle son âne. Il se met à la suite de ce prophète. Il retrouve le prophète quelque part, qui était assis. Et il dit au prophète, oui, je suis venu de la part de l'Éternel pour te dire que l'Éternel voudrait que tu prennes ce pain et que tu manges. Et il dit, non, l'Éternel m'a ordonné de ne rien manger sur ce chemin. Il dit, l'Éternel m'a ordonné de ne rien manger sur ce chemin. L'Éternel, là, lui, m'a ordonné que tu rentres avec moi et que tu manges le pain dans ma maison. Et la prophétie déclarait que s'il rentre par ce chemin, il mange le pain dans la maison, il sera dévoré par un lion. Il a écouté ce prophète et il est rentré. Il a mangé. Et quand il a mangé, voulu continuer le chemin, un lion s'est saisi de lui et l'a tué. C'est là. Vous pouvez aller lire. J'ai préféré résumer parce que c'est long. Sinon, si on le lit. Donc quand tu reçois, le Seigneur m'a dit, oh, à ton sujet, rentre devant le Seigneur. Comme c'est le Seigneur qui a dit, lui aussi va te... Si tu écoutes les mauvais conseillers, tu vas te retrouver très loin. Les mauvaises stratégies, une des causes. La Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. On peut trouver ça dans 1 Corinthiens 14. Tu dois avoir une bonne organisation ou une bonne planification des choses avec Dieu. Si tu ne planifies pas les choses avec Dieu, tu es programmé pour échouer. Il faut avoir une bonne planification avec Dieu pour connaître le succès et être efficace. Et Dieu pouvait dire, mets de l'ordre dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, il faut mettre de l'ordre. Si tu ne veux pas continuer dans l'échec, mets l'ordre dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie relationnelle avec les autres, dans ta vie scolaire. Mets de l'ordre dans ta vie. Par la sanctification, par la prière. Il y a des personnes, elles se lèvent et ne prient jamais, mais elles se déclarent chrétiennes quand même. La vie de prière, c'est comme des virgules dans une phrase. elles sont tout simples et elles disent qu'elles sont chrétiennes. Elles n'ouvrent que la Bible ici, à l'église. Elles n'ont pas de vie de méditation. Il faut mettre de l'ordre. Ouvrez vos Bibles dans Proverbe 24, verset 27. On va lire très rapidement Proverbe 24, verset 27. Là, il est écrit: soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Soigne tes affaires. Mets l'ordre dans tes affaires. Mets l'ordre dans ta vie. Quand il n'y a pas de l'ordre dans ta vie, tu n'es pas discipliné, tu n'as rien planifié, c'est l'échec qui va s'en suivre. Il n'y a pas de succès sans discipline. Quand rien n'est rangé dans une vie, il te sera difficile de connaître un résultat favorable. Pour cela, il faut te fixer des objectifs. Il faut te fixer des objectifs avec le Seigneur. Et rester focalisé sur tes objectifs et non sur tes échecs. Être focalisé sur tes objectifs avec le Seigneur et non sur tes échecs. Une autre cause de nos échecs, c'est la pensée défaitiste. La pensée des gens qui ont échoué même avant de commencer une activité. Lui-même, il déclare que demain, il ira au champ pour cultiver. En même temps qu'il déclare qu'il ira au champ pour cultiver, il dit: assurément, je risque en chemin. Peut-être c'est mieux que je ne parte plus aujourd'hui. En tout cas, si je vais même, hein, je vais rentrer moi à 10h. Parce qu'il y a les sorciers qui sortent souvent à midi. Elle dit qu'il a déjà conçu la mentalité d'échec. Il a déjà la défaite. Vous voyez une équipe de football qui entre au stade. En entrant au stade, il dit que nous avons perdu 5-0. Si on nous bat seulement 3-0, c'est qu'on a beau. Ça, c'est la mentalité défaitiste. Un élève qui va à l'école, il prend bien le cahier de mathématiques. Il a le livre de mathématiques, de physique dans son sac. Et quand le professeur de physique, quand il va à l'école, vous savez sa prière, ben, vraiment, si le professeur là, la dame là, vraiment, elle énerve. Si elle peut ne pas venir, la femme anglaise, elle énerve. Vraiment, je ne veux pas qu'elle vienne. Ça, c'est la mentalité d'échec. Ça dit que en classe, il prie que le professeur ne vienne pas. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà échoué. Alors, cette mentalité défaitiste fait en sorte que nous ne comptons pas sur l'Éternel. Nous comptons sur nous-mêmes. Ouvrez vos Bibles dans Proverbe 3, verset 5. Proverbe 3, verset 5 est assez clair à ce sujet. Proverbe 3, verset 5 nous dit ceci: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La mentalité défaitiste, c'est que tu crois entre tes propres potentialités. C'est ta sagesse qui te conduit et non la sagesse divine. Si tes pensées sont polluées par des idées pessimistes, défaitistes, tu es une potentielle personne programmée pour échouer. Proverbe 23, 7 nous dit: car il est comme les pensées de son âme. Si les pensées de ton âme sont les pensées d'échec, tu as échoué. Tu es comme les pensées de ton âme. Si tu es habité par l'échec, la pensée d'échec, tu as déjà échoué. L'ignorance de son potentiel, c'est une autre cause. Il y a des gens qui ne savent pas ce que Dieu a investi dans leur vie. Elles trouvent qu'elles ne savent rien faire. Elles trouvent que leurs choses ne marchent pas facilement. Il y a une sœur qui me disait un jour: pasteur, pourquoi ma part de choses est toujours due comme ça? C'est que tu ignores ton potentiel. Il y a un riche potentiel en toi et que parfois tu ne cours pas dans ton couloir. Tu as
puis ta voisine, puis une petite caisse pour vendre les tomates. Toi aussi, tu ouvres ta part. Quand ta voisine laisse la tomate et vend le bois, tu achètes aussi ta part. Donc, toi, tu ne fais que faire le travail des autres. Il faut savoir le potentiel que Dieu a mis en toi. Et quand toi, tu fais ta part, l'argent finit après 2 semaines. Parce que tu ne sais pas gérer l'argent. Ce n'est pas ton potentiel. Alors que ton potentiel, c'est sûrement quelqu'un qui peut bien travailler, peut-être au champ, peut-être dans un bureau, dans un secrétariat, être très efficace. Donc il faut avoir une bonne connaissance de son potentiel. Au-delà de toutes ces causes-là, oui, on peut échouer, mais on ne doit pas rester dans l'échec. Et comment sortir de l'échec? Comment rebondir après l'échec? Premièrement, Proverbe 26, 27 nous dit que il faut reconnaître ta responsabilité. Celui qui creuse une fosse, y tombe. Et celui qui remue des pierres sera blessé par des pierres. Reconnaître ta responsabilité dans l'échec. Reconnaître sa responsabilité dans l'échec ne suffit pas. Car l'échec ouvre les portes à la repentance. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 32, le fils prodigue, son échec lui a ouvert les portes à la repentance. La repentance, il ne s'agit pas de dire une prière à Dieu et c'est suffisant. La repentance, regardez cette bouteille, c'est de l'eau potable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'en ai une gorgée tout à l'heure. Qui voudrait aussi en prendre? Je peux lui en donner parce que c'est potable. Si je dis qu'il voudrait en prendre, beaucoup de gens peuvent désirer, n'est-ce pas? Imaginez un temps soit peu. Je prends, vous connaissez ce qu'on appelle les tumbum? Je mets là-dedans. Je prends les cailloux, je mets là-dedans. Je prends les papiers, je mets là-dedans. Je prends les feuilles vertes, je mets là-dedans. Qui va boire? Personne? Pourquoi? Parce que c'est sale. Mais dans cette même bouteille, c'est toujours la même bouteille, n'est-ce pas? Je peux verser tout le tumboum là, n'est-ce pas? Je mets tous les papiers là, n'est-ce pas? Chercher un détergent, je nettoie très bien, n'est-ce pas? Et quand j'ai bien nettoyé, si je mets encore de l'eau là-dedans et que je ne vous dis pas qu'il y avait les asticots là-dedans, vous allez boire? Tu es cette bouteille. Tu es cette bouteille dans laquelle peut-être se trouvent les asticots, dans laquelle se trouvent les cailloux, dans laquelle se trouvent les feuilles. Dieu veut te verser, verser tout ça. Parce que c'est l'échec là-bas. Hein? Il veut te remplir maintenant. Et te remplir, c'est que tu sois né de nouveau. C'est que tu fasses l'expérience de la repentance. Si tu as fait l'expérience de la repentance, la Bible déclare, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. C'était toujours le fils prodigue qui avait pris l'argent de son père. Il est allé manger, détruit avec les prostituées. Il avait pour meilleure compagnie les prostituées. Il a même voulu voler la nourriture des animaux, des porcs. On le détient pour ça. Il n'a pas pu voler. Il est rentré en lui-même. Il a dit, j'irai chez mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Tu me traiteras comme l'un de tes serviteurs. Il a versé. Il a versé les cailloux, les pierres, tout ce qui était là-dedans. Et il a dit, maintenant, je deviens une nouvelle personne. C'est pourquoi il est arrivé chez son père l'a embrassé. Son père n'a plus vu son fils délinquant, mais il a vu son fils qui a sa véritable nature. Oui, la repentance, l'échec peut te conduire à la repentance. Tu as échoué quelque part. Tout était planifié par toi. Tu avais même beaucoup d'argent. Tu étais même très intelligent. Mais tu as échoué quelque part. Assurément, tu étais heureux. Assurément, tu te suffisais. Tu n'avais pas besoin de Dieu. Et tu trouvais que Dieu était l'affaire des femmes, des gens qui n'ont rien à foutre, des gens qui sont des feignants. Et Dieu veut que dans ton échec là, vienne à lui. L'échec est également une opportunité. L'échec t'offre l'opportunité d'être meilleur. C'est pourquoi il faut chercher quelle est la volonté de Dieu dans ton échec. Si tu n'as pas compris pourquoi Dieu a fait échouer, a permis qu'il y ait échec, c'est que tu ne peux pas te relever facilement. Quand j'étais en classe de terminale, c'est la seule classe que j'ai échoué. Quand j'étais en classe de terminale, j'étais très faible en physique, très faible en chimie, très faible en SVT. Et dans tout cela, je voulais passer quand même. Je voulais passer. Ma moyenne en physique, toute l'année, n'avait jamais atteint 5. Mais je voulais passer, n'est-ce pas? Quand je suis allé au baccalauréat, j'ai écrit, parce que quand j'écris, je sais que je vais passer, je sais aussi que je vais échouer. Quand j'ai écrit, je suis sorti, j'ai commencé à dire comme les élèves, je vous dis, si le professeur là, essaie. Après, j'ai dit à moi-même, cesse de te mentir, tu vas échouer. Mais, comme c'était quand même la première fois que j'avais le sentiment d'échouer, il y avait quand même une lueur d'espoir que je forçais dans. Mais je savais au fond de moi que j'allais échouer. Alors lorsque les résultats du baccalauréat sont sortis, je vais au lycée Leclerc où j'étais. Bon, on a dit que c'est sorti. Quand même, il faut aller voir. Il ne faut pas aller dire aux gens que en voir que tu as échoué, non? Je vais voir et je constate que j'ai échoué. Et quand j'annonce aux gens que j'ai échoué, c'est comme une blague. Mais j'avais compris pourquoi j'avais échoué. Et l'année d'après, j'ai changé toutes les mauvaises stratégies que j'avais. Parce que j'avais utilisé au moins 50 stratégies, ça n'a pas donné. Et quand j'ai changé, j'ai dit à Dieu, j'avais des projets qui ne t'honoraient pas. Parce que si ces projets-là avaient marché, c'est que peut-être vous ne me connaissez pas. Parce que en classe de troisième, de quatrième, j'avais déjà dit à Dieu, Dieu m'avait convaincu, j'avais dit à Dieu, je serai pasteur. Donc quand je fréquentais, je savais que je deviendrais pasteur. Et j'ai dit à ma mère après le c'est moi j'arrête, je ne vais pas devenir pasteur. Ma mère m'a dit, mon fils, pardon, je ne refuse pas. Va quand même jusqu'au bac. Après, si tu veux devenir pasteur, ce n'est pas un problème. Et j'ai subi une influence de mon grand frère.
Mon grand frère, il me dit, si tu passes le bac, je t'envoie au Canada, tu vas continuer tes études. Waouh! On a fait tous les papiers du Canada. Le résultat est venu dire, reste encore. Il restait seulement que je vienne avec les baccalauréats pour qu'on dise, bon, pars alors. Dieu fait bien ce qu'il fait. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit au Seigneur, j'ai compris pourquoi j'ai échoué. Parce que j'avais déjà abandonné. Donc toi, tu n'étais même plus ma priorité. Donc vraiment, tu n'étais plus là. Tu n'étais plus dans mon programme. Amen. Il faut donc savoir que dans l'échec, Dieu nous offre une opportunité. Il m'a offert l'opportunité de ne plus échouer. Du point de vue scolaire, ce que je voudrais dire. Et de réussir et de devenir ce qu'il avait comme projet pour moi. Dans tes échecs, les échecs te permettent d'avoir un moral de vainqueur. La Bible déclare en Romains chapitre 8, à partir du verset 30 à 32, nous sommes plus que vainqueurs. Il faut avoir un moral de fer lorsqu'on est confronté à des échecs. Il ne faut pas rester et se dire, ah, comme j'ai échoué là, je préfère abandonner. Non, abandonner, ce n'est pas ta destinée. Tu as échoué, cherche à comprendre pourquoi tu as échoué. Ne dis pas, moi je suis déjà fatigué, je n'arrive plus, je fais... Tu es en train de faire quelque chose, de bâtir un projet ou une maison. Mais le matériel, chaque jour, les voleurs viennent porter. Tu fais comment? Tu dis, bon, maison, vraiment, au revoir, je n'aurai plus jamais de maison. Parce que ces voleurs-là, ils ne me veulent pas du bien. Tu as ta boutique, on est venu cambrioler aujourd'hui. Tu fais comment? Tu n'ouvres plus la boutique. Dieu ne t'appelle pas à l'abandon. Tu as échoué, tu dis non, c'est la troisième fois que je fais le probatoire. Ce n'est pas là le problème. Si tu fais le probatoire pour la troisième fois, avec les mêmes dispositions, tu t'entraînes encore pour échouer. Mais si tu accomplis les raisons de ton échec, alors tu peux te relever. Il y a des personnes qui sont découragées par leur mari. Elles disent, ah mon mari là, vraiment il ne me sert à rien. Il ne fait rien dans cette maison. Moi, je veux m'abandonner cette maison. Je souffre trop ici. Si tu abandonnes, je sais que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu abandonnes, c'est que tu as passé toute ta vie inutilement. Ça peut être difficile, mais il faut comprendre ton échec. Peut-être que tu n'as jamais été la femme que ton mari désire. Jamais. Et c'est pourquoi vous êtes dans un champ de bataille, échec sur échec. Tu n'as jamais été l'appui dont il a besoin. Tu n'as jamais été l'appui dont ta femme a besoin. Et vous connaîtrez toujours des échecs. La Bible dit que si deux marchent ensemble, si l'un tombe, l'autre le relève. Vous ne pouvez pas être deux et vous êtes toujours dans l'échec. C'est que vous refusez votre responsabilité dans l'échec. Dernier élément, quand tu as échoué, tu as une expérience. Tu as une expérience. L'expérience signifie que tu sais les sentiers que tu as empruntés et que tu ne pourras plus les emprunter. Proverbe 16, 25 dit que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Si tu as emprunté un sentier qui t'a conduit en brousse, comme les enfants disent, n'est-ce pas, au champ, il faudrait plus emprunter ce même sentier. Il faut grandir de ton expérience. Là où tu es tombé, ton expérience te donne de savoir éviter les pièges. Ne laisse jamais l'échec prendre le dessus sur toi. Car le Seigneur a pour toi des projets merveilleux. Et les échecs ne sont pas suffisants pour arrêter le projet de Dieu pour toi. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Là où tu as échoué, ne t'arrête pas. Ce n'est pas ta destinée. Il faut aller au-delà de l'échec
et voir la main de Dieu qui va te conduire.
Rester connecté à l'Esprit de Dieu, c'est la garantie suffisante pour que, en dépit de tes échecs, tu deviennes meilleur. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. As-tu un jour échoué dans un domaine, dans une activité? Dis merci au Seigneur pour cet enseignement. Dis merci au Seigneur parce qu'il te permet de comprendre tes échecs. Tu n'as pas échoué parce que tu étais mauvais, mais tu as échoué
pour parvenir
à quelque chose de plus grand. Rends grâce à Dieu qui t'enseigne à travers tes échecs. Dis au Seigneur que tu veux dépendre de lui. Dans Jean 15, verset 5, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu as sûrement des projets, mais dans tes projets, Dieu n'est pas inclus. Dis au Seigneur que ce soir, tu le places au cœur de ta vie, au cœur de tes projets. Dis au Seigneur que tu veux oser recommencer en dépit de tes échecs. Merci parce qu'il fait de toi quelqu'un qui veut avec lui. Tu t'es laissé tromper par les hommes, abusé par les hommes. Ton corps a été utilisé comme un jouet. Dis au Seigneur, j'ai connu des échecs, je veux oser recommencer avec toi. Bien-aimé, maintenant, identifie quelques causes de sans accuser les autres. Identifie les causes de ton échec et vois ta responsabilité. Et dis au Seigneur, merci parce que tu me montres les causes de mon échec.
Dis au Seigneur de te donner un cœur humble qui te permettra de repartir
de nouveau. Nous avons dit que la repentance, l'échec peut ouvrir à la repentance. Pendant que nous allons exécuter ce chant, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Dis à Jésus, je veux t'avoir pour berger. Je veux tout recommencer avec toi. Je veux tout recommencer avec toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour marcher avec toi par la foi. Et reparti à zéro, et reparti à zéro, avec Jésus, Père. Père, nous te rendons grâce pour cette soirée où tu nous invites à comprendre nos échecs. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons souvent échoué parce que nous avons voulu agir sans toi. Nous avons voulu faire sans toi. Nous avons voulu emprunter les sentiers vers lesquels tu ne nous appelais pas. Seigneur, nous reconnaissons devant ton trône de grâce que nous avons échoué parce que nous avons été orgueilleux. Nous avons cru être sages et nous sommes devenus fous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous parce que nous avons échoué, alors que tu ne nous avais pas destinés à échouer. Ce soir, nous avons réalisé combien ton amour est grand. Nous avons réalisé combien ta compassion est grande pour nous. Nous avons réalisé qu'en dépit de nos échecs, tu n'as cessé de nous aimer, que tu n'as pas changé. Oh, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ton amour, parce que nos échecs ne t'ont pas fait changer. Tu nous aimes et tu voudrais nous relever. À tes pieds, Seigneur, nous nous prosternons. À tes pieds, nous nous jetons. À tes pieds, comme l'enfant prodigue, nous revenons, Seigneur, afin que tu nous donnes ta nature, afin que tu nous relèves et que tu nous transportes dans le royaume du Fils de ton amour, en Christ Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as appris de nos échecs. Tu nous as enseigné de nos échecs. Et tu nous donnes de dépendre de toi. En cette nouvelle saison, nous déclarons que nous cheminons avec toi. Et nous acceptons que tu nous forges, que tu nous bâtisses, que tu nous relèves et que tu nous montres les sentiers que nous devons emprunter. Merci Seigneur Jésus de le faire. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Amen. Merci. Veuillons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort?
Alléluia.